Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, pis, d'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer. Quoi, au juste? Et pourtant...
Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal.
Bon, eh bien, François Legault a annoncé ses couleurs. Il semble que la marmotte en sortant du trou vu son ombre et que ce sera une campagne électorale courte. Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre, Joseph?
Écoute, j'ai fait les mêmes lectures que toi. Il semblerait que le premier ministre a fait une sorte de lapsus quand il a dit « Écoutez, je vous dirai pas tout aujourd'hui parce qu'il me faut des munitions pendant 36 jours. » Alors évidemment, les petits futés qui couvrent la politique ont pris le 3 octobre, ont reculé 36 jours et ça amène au 29 août. Puis par ailleurs, écoute, quand un parti, le Parti québécois en l'occurrence, annonce 22 candidatures d'un coup, ben là, c'est vraiment que les autobus sortent du garage puis qu'on ferait vroom-vroom et on s'apprête à partir. Oh, hey, en passant, Patrick, j'ai cru comprendre que c'était notre dernière collaboration estivale. Alors, avant d'oublier, je veux juste te dire à quel point j'ai eu beaucoup de plaisir en jouant avec toi, puis je t'en remercie.
Hey, ben écoute, c'est réciproque, ça a été plaisant pareil, puis écoute, on aura sans doute l'occasion aussi, mais merci beaucoup, Joseph.
Écoute, j'espère. Alors, écoute... Le moins qu'on puisse dire, c'est que quitte à avoir l'air fou dans quelques semaines, il n'y a pas vraiment de suspense relativement à l'issue, si ce n'est de savoir qui va finir deuxième, qui va être l'opposition officielle. Et à cet égard-là, ben évidemment, le Parti libéral part avec une bonne longueur d'avance pour des facteurs démographiques et linguistiques mille fois discutés. Moi, j'avais le goût de jaser avec toi, si ça tente, des vedettes de la CAQ.
Oui, donc?
Écoute, le moins qu'on puisse dire, il faut à tout seigneur, tout honneur, le reconnaître, la CAQ arrive au bâton avec un alignement très, très, très impressionnant. Et c'est là, justement, que ça me turlupine. Tu sais, il y a un proverbe qui dit « abondance de biens ne nuit pas ». Excuse, en politique, c'est faux. Abondance de biens peut te nuire et pour des tas de raisons. Premièrement, tu as beaucoup de députés qui rongent leurs freins depuis longtemps, qui voient arriver toutes ces vedettes puis qui vont être frustrés. Et un député d'arrière-ban frustré, c'est jamais facile à gérer. En plus, évidemment, pense-y, tous ces nouveaux députés, avec une relative notoriété, pourront pas être ministres. Donc, tu as évidemment des gens qui rêvent à la limousine, qui ne seront pas ministres, et qui vont se dire, pourquoi pas moi? Patrick, je me rappelle... En 1994, je sais, je trahis mon âge, quand Jacques Parizeau et sa gang, dont je faisais partie, ont pris le pouvoir, et M. Parizeau annonce, tiens-toi bien, que Camille Lorrain ne serait pas ministre.
Hey, je m'en rappelle, Joseph, je m'en rappelle, t'es pas tout seul.
Camille Lorrain ne serait pas ministre, le père de la loi 101. T'as pas idée de la secousse que ça a provoqué à l'interne quand on voyait des gens infiniment moins connus qui, eux, l'étaient. En plus, c'est pas nécessaire d'avoir un tas de vedettes pour gagner les élections. 5 ou 6 noms suffisent à peine parce que, en fait, l'électeur de base ne s'appuie pas beaucoup sur l'identité du candidat local. Si le candidat local est une vedette, ça peut peut-être apporter quelques voix. Mais fondamentalement, c'est l'électeur vote pour le chef, vote pour le parti, et moi, honnêtement, pour revenir à jadis, en 94, quand j'ai été élu, j'avais aucune espèce d'illusion que les gens dans ma circonscription votaient pour le nobody que j'étais. Ils avaient tout simplement voté pour le parti. Et bon, ben, je suis rentré, si tu veux, avec la vague.
Oui.
Ah. C'est comme si, C'est comme si la CAQ se présentait devant l'électorat, pas juste pour gagner, mais pour ne rien laisser aux autres. Et là, honnêtement, je suis pas sûr de comprendre la différence entre gagner avec 83 députés ou gagner avec 103 députés. Enfin.
Ouais, mais ça dépend pour qui, hein. T'sais, ça dépend comment tu conçois la démocratie. Si tu conçois le régime démocratique comme étant, écoute, il y a différents courants de pensée politique, mais ça reflète différents courants de pensée dans la population. Fait que c'est tannant, mais faut dealer avec, faut discuter, faut faire des compromis. Ou si tu penses que, hey, nous autres là, on est majoritaire, un mandat fort, puis les autres c'est une bande de gauchistes ou je sais pas quoi ou n'importe quoi, là, peu importe là, de quel bord tu te situes là. Moi ça me fait penser, écoute, il y a une manchette de, tu connais le journal satirique The Onion?
Oui, bien sûr.
Il y avait une manchette il y a quelques années. Yankees hire every player in Major League Baseball. C'est les Yankees engagent tous les joueurs du baseball professionnel, puis il avait écrit un article avec ça, puis c'était à l'époque où les Yankees, justement, signaient là quasiment tout le monde, puis le gérant des Yankees, fictif dans l'article, Joe Torres, disait « Ah ben oui, écoute, ça fait beaucoup de joueurs, j'avais pas été averti de ça, mais tiens, on va essayer de s'arranger. » Mais c'est un peu ça, c'est là, on essaie de passer la gratte, puis on n'est plus dans une... Écoute, j'ai plus l'impression qu'on est dans un plan où on essaie d'élaborer une vision avec des politiques pour le Québec puis une direction. On est juste dans la conquête du pouvoir pour le pouvoir, jusqu'à un certain degré. Puis c'est quoi un candidat vedette? Tu sais, moi, à chaque fois que j'entends un candidat vedette, là finalement, c'est quelqu'un qui a fait de la télé. Mais un candidat vedette, à un moment donné, quelqu'un, je sais pas moi, Carlos Letao. Puis là, bon, OK, c'est un libéral, c'est pas parce qu'il est libéral, c'est lui qui me vient en tête. Le gars qui avait gagné, à un moment donné, le concours du meilleur économiste au monde, là, j'ai OK, wow. Ça, c'est un candidat vedette. Puis peu importe ce que tu penses du Parti libéral, tu sais, c'est un vrai candidat vedette. Gabriel Nadeau-Dubois pour Québec solidaire. Encore là, peu importe ce qu'on pense de son action dans la grève de 2012, mais le gars, il a quand même été capable de s'approprier un enjeu, de se démarquer, d'avoir un discours. Mais là, dire, eux autres, ils ont fait de la télé, je sais pas.
Patrick, si tôt qu'on aura terminé, je vais fouiller si dans ma maison, il n'y a pas un espion. Parce que je te jure, que dans le petit papier que j'ai devant moi au moment où je te parle, il est écrit que la CAQ ou M. Legault me fait penser au DG d'une équipe de baseball qui a décidé de poster sa masse salariale pour arriver avec 9 gros cagneurs. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, alors qu'en fait, l'équipe a 30 matchs d'avance sur le deuxième. Alors forcément, évidemment, ça fait des drôles de compagnonnage. Tu vois, par exemple, la chef de cabinet adjointe de M. Lisée, Mme Fréchette, va retrouver M. Drainville. On va se dire deux péquistes. Le problème, évidemment, c'est que Mme Fréchette avait quitté le Parti québécois en désaccord avec la Charte des valeurs, et là, elle va retrouver l'homme qui est plus que n'importe qui d'autre associé à celle-ci. En fait, ce qui me frappe aussi, c'est que, à la limite, je pourrais comprendre l'idée d'aller chercher la plus grosse équipe possible si tu avais annoncé un programme extrêmement ambitieux. Rappelle-toi, René Lévesque en 1976, Jean Lesage en 1960, on avait le sentiment que véritablement, on était en face de très grosses équipes. Et quelque part, ça se comprenait, puisque chacun à leur manière, ils y allaient pour, au fond, ce que furent, si tu veux, les deux révolutions tranquilles du Québec moderne. En ce moment, je ne sens pas, ça va venir peut-être, que M. Legault a de si grands plans que ça dans sa besace. Alors évidemment, ça donne un sentiment, si tu veux, d'étrangeté à tout ce dévoilement de très grands joueurs. Évidemment, en plus, j'ai pas pu, sans vouloir être méchant, j'ai pas pu m'empêcher de sourire quand je regarde évidemment les déclarations d'intention de certaines de ces vedettes. Tu vois, alors on a comme ça en vrac, j'y vais pour un Québec fort, pour l'économie, pour le virage du savoir, pour marier l'économie et l'environnement. Honnêtement, qui va dire le contraire?
Ben là,
qui va dire Qui va dire « j'y vais pour affaiblir le Québec et promouvoir la pollution et l'ignorance » Sauf que, on aimerait que ce soit un peu plus précis. Alors évidemment, ce flou, il indique quoi? Ce flou, il indique deux choses. Ce flou, il indique d'abord que la CAQ, elle ira là où François Legault le décidera. Point à la ligne. Et je prends la peine de te dire ça parce que moi, je suis issu d'un parti où des milliers de membres en congrès blanchaient comme des élèves studieux, crayon et efface à la main pour rédiger le programme. Et ensuite, on prenait ça très au sérieux. Et bien entendu, le chef et l'équipe gouvernementale avaient une marge de manœuvre considérable, mais les militants les surveillaient. Ici, écoute, même les candidats vedettes ne savent pas eux-mêmes où ils s'en vont et les priorités seront décidées et annoncées par François Legault tout seul. Puis la deuxième chose que ce slogan indique, c'est qu'essentiellement, c'est un parti uni par deux ciments. C'est-à-dire, d'un côté, l'allégeance au chef et de l'autre, évidemment, le goût du pouvoir. Et pour beaucoup de personnes, le pouvoir a quelque chose d'un peu sale. Non, moi je le dis pas de manière forcément critique. Le pouvoir sert à faire des choses. Je ne condamne pas quelqu'un qui y va pour le pouvoir. Mais évidemment, on risque pas, n'est-ce pas, d'entendre un candidat nous dire « je me joins à la CAQ parce qu'elle va gagner », alors que dans l'opposition, on n'accomplit rien. Mais j'ose espérer qu'on en saura un peu plus dans les prochaines semaines, parce que on a beau qualifier François Legault de pragmatique, tu sais, j'ai été voir dans le dictionnaire c'est quoi exactement pragmatique. Alors le pragmatique, c'est celui qui se soucie uniquement des résultats. Je veux bien, Patrick, je veux bien. Mais qui dit atteinte des résultats, dit atteinte d'une cible. Quelles sont les cibles? Où sont-elles? On s'en va au nord? On s'en va au sud? J'attends de voir.
Oui, ouais, écoute, à part pour, la partie identitaire sur laquelle il y a des mesures législatives qui ont été votées, qu'on soit d'accord ou pas, il y a définitivement des choses qui ont été faites.
Oui, mais c'est fait, ça.
Oui, c'est ça, exactement.
91, 96, c'est fait.
C'est fait. Mais tu sais, pour le reste, là, moi, ça me donne l'impression, à un moment donné, là, quand le pouvoir est en soi un objectif, tu sais, j'ai un peu un problème avec ça. Je respecte un peu plus les politiciens qui vont à moitié à reculons en se disant, écoute, c'est pas nécessairement formidable la politique, faut faire des compromis, mais si on veut faire changer des choses, ben tu sais, on y va. Je vais t'entendre sur une chose en terminant là, parce que ça, écoute, je suis sûr, si je peux l'ai entendu, ça va te faire sourire. Martine Biron, ancienne journaliste, puis bon, qui avait été très critique sur certains projets phares de la CAQ, dont le troisième lien, puis qui a avalé des couleuvres grandes comme un anaconda pour dire qu'elle trouvait ça formidable. Bon. Ça soulève des questions à savoir si elle est sincère maintenant ou avant. Mais bref, quand on lui a parlé des journalistes qui se lancent en politique, elle a donné deux exemples. Elle a parlé de René Lévesque et de Winston Churchill.
Ouais, disons que les temps ont changé. Aujourd'hui, évidemment, on vit dans une société hyper médiatisée. Et si tu veux, le profil type de la politique de jadis, qui comptait une grande majorité d'avocats, est de plus en plus en train d'être remplacé par les gens issus des communications, des relations publiques au sens large. Non, là, je pense que Mme Biron a, soyons charitables, je crois que le plus gentil qu'on peut dire, c'est qu'elle a manqué un peu de modestie dans le choix de ses comparaisons. Puisque tu es sur le cas de Mme Biron, j'ai pas pu m'empêcher également de sourire, parce que qui dit vedette dit forcément des tas de gens qui se présentent là où ils n'habitent pas, ce qu'on appelle des parachutés. Personnellement, ça ne me dérange pas outre mesure en cette époque où, de toute manière, tous les ancrages territoriaux sont en train de sauter. Est-ce qu'un député doit nécessairement vivre dans la circonscription qu'il représente? Pas du tout. Mais chez Mme Biron, il y a eu le retour d'un vieux réflexe, n'est-ce pas? pas, pour montrer qu'elle avait quelque part un ancrage sur la rive sud de Québec, elle a dit, oh, vous savez, ma mère y a vécu pendant 30 ans. Ben là, je trouve que c'est vraiment charrié un peu loin. Enfin.
Ouais, écoute, ça va être drôle parce que, en tout cas, moi, j'ai hâte au jeu de chaise musicale parce que tous ces gens-là qui se trouvent absolument formidables, qui ont sans doute une belle opinion d'eux-mêmes, vont se rendre compte qu'il va manquer peut-être un petit peu de chaise autour de la table du Conseil des ministres lorsque la partie de chaise musicale va être terminée.
Non seulement il va manquer de chaise, mais ils vont découvrir une grande loi de la politique. C'est que tu as beau être ministre, ultimement, c'est le premier ministre et son numéro 2. Qui est le numéro 2? Le chef de cabinet du premier ministre, avec infiniment plus de pouvoir dans l'ombre qu'à peu près tous les ministres. Bienvenue dans le monde réel.
Ça va être à suivre, ça va être intéressant. Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec, merci beaucoup et à bientôt.
Au plaisir, au revoir.
Au revoir.